Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h25, bonjour Nina Schmidt.
Bonjour.
Vous êtes responsable Île-de-France de l'Observatoire des Inégalités. Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Économiste, merci à l'un et à l'autre d'être avec nous dans ce studio en direct d'RTL. On a détaillé ce matin sur notre antenne les caractéristiques des très hauts revenus grâce à une étude de l'INSEE. Les inégalités en France se creusent-elles ? Y a-t-il de plus en plus d'écarts entre les citoyens de ce pays ? Jean-Marc Daniel.
Alors quand on regarde cette étude de l'INSEE qui ne concerne pas que les très hauts revenus, on s'aperçoit que si on mesure les inégalités, alors il y a de multiples façons de mesurer les inégalités, et là en plus ce sont les inégalités monétaires et financières, parce qu'il y a d'autres formes d'inégalités, il y a les inégalités d'accès à l'éducation, les inégalités d'accès aux services publics. Quand on regarde ça, on mesure ça au travers de deux notions, le nombre de pauvres, donc les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, et deuxièmement ce qu'on appelle en économie un coefficient de Gini. Alors pour être très très simple...
Je veux bien que vous me le mettiez en français.
Voilà. Oui, en français, ça veut dire que ce nombre, s'il est égal à 1, c'est qu'un individu détient tout. S'il est égal à 0, c'est que la richesse est partagée de façon égale entre tous les individus. Donc plus on est proche de zéro, plus la société est égalitaire, plus on est proche de 1, plus elle est inégalitaire.
Alors que nous dit Gini ?
Alors Gini nous dit qu'en France, on est à 0,29, 0,3 depuis très longtemps en fait. Et ça reste très très stable. Donc il y a une très grande stabilité des inégalités. Ce qui est donc, pour compléter ces deux ou trois informations, ce qui est intéressant, c'est que de même le nombre de gens qui sont pauvres, on a 14% de gens qui sont selon les critères de l'INSEE pauvres, et ça aussi c'est assez stable. En revanche, la population pauvre change de nature. C'est-à-dire, ce qui est frappant, c'est que pendant très longtemps, c'était les vieux qui étaient pauvres, et maintenant, ce sont les familles monoparentales, les chômeurs. Il y a une modification des pauvres. Il y a pas forcément de creusement des inégalités, mais il y a un changement dans la nature de la pauvreté.
Ce qui explique notamment des mesures qui ont été annoncées ce matin par la ministre de la Santé sur notre antenne. Quelle analyse faites-vous, vous, Nina Schmidt, de ces chiffres ? Et qu'est-ce que vous avez envie de retenir et de mettre en avant ?
Je vais aller dans le sens de Jean-Marc Daniel. Il n'y a pas une explosion des inégalités en France. On a un modèle social qui amortit les chocs. Depuis les années 70, effectivement, on a même une baisse. Si on regarde le point de départ des années 70, on a même une baisse des inégalités en France. Et si on prend effectivement l'indice de Gini, le rapport interdécile, etc., toutes ces choses incompréhensibles pour le grand public, oui, effectivement, ça reste stable, ou en tout cas, ça baisse. Par contre, si on regarde depuis une vingtaine d'années, une fois qu'on a dit qu'il n'y avait pas une explosion des écarts et qu'on n'était pas effectivement un pays, si on regarde aussi, si on se compare à d'autres pays, c'est ce que montre aussi l'étude de l'INSEE, on n'a pas une explosion des écarts, il faut faire attention à cette dramatisation. Mais une fois qu'on a dit ça, si on regarde depuis 20 ans ce qui se passe, ça repart à la hausse quand même. Notamment, je continue un petit peu, notamment parce que le niveau de vie mensuel des plus pauvres est relativement stable. Il est à 690 € mensuels par mois depuis 2005, depuis 15 ans. 690 € mensuels par mois. Je répète, c'est stagne. Cela dit, si on regarde dans le détail ce qui se passe depuis 10 ans, il y a des fortes périodes de vaches maigres, avec un gros décrochage d'ailleurs en 2012. Si on regarde de l'autre côté des 10% les plus aisés, là, on est sur un niveau de vie mensuel le même, entre 4 000 € et 5 000 €, qui a continué d'ailleurs d'augmenter sur la période où ça a décroché pour les plus pauvres, c'est-à-dire vers entre 2008 et 2012, au moment de la crise. Et puis, ça a baissé quand même entre 2011 et 2013 avec les hausses d'impôts, l'effet des hausses d'impôts. Là, ça repart à la hausse sur les toutes dernières années, 2014-2015, les écarts se creusent à nouveau, notamment sous l'effet d'une envolée des revenus les plus aisés.
Alors quand on regarde notamment dans le détail cette étude, on se rend compte que les disparités se concentrent beaucoup plus sur le patrimoine que sur les salaires en tant que tels. Comment l'expliquer ? Ça veut dire que d'une certaine façon, ceux qui n'ont pas de patrimoine n'y accéderont jamais ?
C'est-à-dire qu'effectivement, l'élément patrimonial d'ailleurs est très concentré sur l'immobilier.
Oui.
Et donc vous avez un problème sur l'immobilier qui est un problème, je dirais, lié à son financement. Donc il faut avoir accès au financement. Et c'est là aussi qu'on retrouve assez paradoxalement l'avantage des personnes âgées. Avoir une retraite maintenant, c'est avoir un revenu régulier. Et donc autrefois, avoir une retraite...
Une forme de stabilité.
Stabilité.
En fait.
Oui, alors autrefois, c'était avoir un petit revenu, maintenant c'est avoir un revenu régulier. Alors qu'avoir une activité, ça peut signifier avoir un revenu assez important, mais être menacé menacés par la disparition de ce revenu, être menacés par le chômage. Donc, vous avez une difficulté d'accès d'un certain nombre des ménages jeunes à l'immobilier, alors que les taux d'intérêt sont très très bas. Le deuxième élément, c'est que dans l'immobilier lui-même, les gens seraient surpris d'apprendre que le prix de l'immobilier a plutôt tendance à baisser en France. Oui. Sauf qu'il monte dans certaines agglomérations.
Bien sûr, de façon importante.
De façon très significative et très importante. Et donc, vous avez des effets de patrimoine qui sont significatifs sur l'immobilier. La dernière remarque que je ferai, c'est que quand vous regardez dans ces inégalités de patrimoine, vous apercevez que les revenus du patrimoine n'ont pas été particulièrement affectés par la baisse des taux d'intérêt. On aurait pu penser que la baisse des taux d'intérêt aurait un impact très très sensible sur les revenus du patrimoine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui gèrent du patrimoine sont suffisamment avertis et suffisamment adroits dans leur gestion pour corriger les conséquences qu'a eu la baisse des taux d'intérêt.
10% des ménages détiennent la moitié du patrimoine immobilier et financier de la France. Comment vous analysez ces chiffres ?
Alors effectivement, il y a des inégalités de patrimoine, elles sont plus importantes que les inégalités de revenus. Cela dit, il y a un lien parce que quand on a des revenus confortables, on peut se constituer du patrimoine. Voilà. Donc c'est un lien. Et puis surtout, le patrimoine va accroître la reproduction des inégalités aussi dans le temps et entre générations aussi. Donc ça va creuser aussi les écarts entre jeunes, notamment population modeste et population aisée et plus âgée.
Il est tout à fait normal d'être choqué par les inégalités. Alors, en revanche, ce que nous expliquait ce matin François Langlais dans son rendez-vous à 7h40, c'est que 1% des Français les plus riches payent aujourd'hui à eux seuls 25% de l'impôt sur le revenu. Donc, ces riches, ils payent des impôts et ces impôts sont ensuite redistribués via des prestations sociales. Alors, sans provocation, c'est est-ce que la France a besoin de ces riches ? Et c'est notamment un des propos tenus, suggérés et assumés par le président de la République dans la politique qu'il mène.
Oui, je crois qu'il y a, quand on écoute ce que dit Emmanuel Macron, d'abord, il y a un constat, c'est que les inégalités ne se creusent pas en France et c'est le pays où il y a le moins de croissance par rapport aux pays homogènes. C'est-à-dire qu'on en nous a beaucoup dit, vous savez, un des problèmes, c'est que le creusement des inégalités nuit à la croissance. Or, factuellement, ce n'est pas exact. C'est-à-dire que les pays qui ont eu le plus de croissance dans les économies comparables, dans les économies États-Unis, Europe, sont les pays qui ont eu le plus de croissance, sont les pays qui ont, en regard, accepté le creusement des inégalités. Oui. Et c'est assez spectaculaire en Europe de l'Est, mais on part de situations très particulières. Et donc, il y a cette idée aussi que l'enjeu, c'est pas tellement les inégalités en soi, c'est la croissance, parce que tout le monde finit par bénéficier de la croissance, et la réduction de la pauvreté. C'est-à-dire que notre président de la République n'arrête pas de citer Kennedy, qui disait « Mon enjeu, c'est pas d'abaisser les riches, c'est de relever les pauvres. Oui. » Et donc, pour relever les pauvres, il faut avoir de la croissance.
Mais c'est vrai ça, ou c'est un slogan ?
Alors, c'était un slogan. Je pense qu'il y a une partie de vérité. C'est-à-dire que dans le discours sur les premiers de cordée, il y a quand même ce constat que une partie de la population porte la croissance par ses investissements. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que le taux d'investissement s'est repris à augmenter en France depuis la suppression de l'ISF. Alors, il y a des gens qui disent que c'est un mécanisme qui est un mécanisme de hasard, c'est une concomitance, mais c'est pas lié. Le gouvernement est en train de nous expliquer que c'est relativement lié. C'est-à-dire que la reconnaissance de la dynamique entrepreneuriale permet d'avoir de la croissance qui favorise des pauvres.
Et pourtant, quand on parle de premier de cordée, très souvent, on l'assimile finalement à des injustices assumées, Nina Schmidt.
Oui, la France a besoin de ses riches, elle a besoin de ses pauvres aussi, elle a besoin de tout le monde. Dans une vraie cordée, pour reprendre cette image-là, dans une vraie cordée, il y a un relais. C'est pas toujours le premier qui reste premier. Voilà, le dernier passe aussi et on passe le relais. Et je pense qu'il faut du coup, au regard de dispositifs qui favorisent effectivement l'investissement des plus riches, il faut aussi arrêter de tailler dans les dispositifs qui aident aussi à la reprise de l'emploi pour les plus éloignés de justement l'emploi. Voilà. Donc faut aussi qu'il y ait des mesures pour les uns, mais aussi pour les autres. Et là, on remarque qu'il y a un déséquilibre dans ce sens. Et donc les aides sociales aident. On voit bien sur les revenus des plus pauvres, il y a des effets de Dancy très forts parce que ce sont les variables d'ajustement aussi. Hein. Dès qu'il y a une baisse un ralentissement économique, ils sont très sensibles. Dès qu'il y a une hausse, ils repartent un petit peu à la hausse. Et donc, on voit bien que c'est eux la variable d'ajustement aussi de notre système.
Merci beaucoup, Nina Schmidt. Je rappelle que vous êtes responsable Île-de-France de l'Observatoire des inégalités. Merci, Jean-Marc Daniel. Vous êtes économiste. Et je rappelle aussi qu'au micro d'Elisabeth Martichoux, ce matin, la ministre des Solidarités a annoncé de nouvelles aides pour le retour à l'emploi des mamans, avec une prise en charge notamment des gardes d'enfants de 1 à 2 mois, une avance de frais en quelque sorte.